Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Barbara Duval. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une jeune femme passionnée, dynamique, chef d'entreprise à présent, qui évolue dans un monde assez particulier, un monde que l'on pourrait penser réservé aux hommes, et je m'expliquerai tout à l'heure là-dessus. C'est celui du piano, de sa location, ce qui veut dire aussi de son transport, puisque le jour où je l'ai rencontré, je l'ai vu porter un piano, et donc c'est là que véritablement j'ai été un peu scotché, comme l'on dirait. Bonjour Barbara Duval.
Bonjour.
Alors Barbara, le bac, et après le bac, vous avez fait un CAP d'assistante technique en instrument de musique. Mm. Qu'est-ce que c'est que ce diplôme ?
C'est un diplôme en fait qui permet la découverte concrète du piano, en tout cas du piano droit, et qui apprend en fait à accorder le piano, donc c'est 220 cordes, c'est 88 touches, avec des fréquences, etc. C'est tout un...
Donc ça veut dire que vous savez accorder aussi.
C'est ça, en fait, la base de mon métier, de moi, de technicien piano, c'est l'accordage, en fait. On va venir travailler, ouvrir les pianos, vraiment tendre leurs cordes pour que le piano puisse sonner.
Et pourquoi vous êtes allé dans cette voie ? C'est quand même assez particulier, vous devez être assez peu nombreux et nombreuses sur le territoire à faire ce genre de métier. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Vous aviez des précédents dans la famille ou un amour particulier pour cet instrument ?
J'ai commencé parce que justement c'est particulier. J'ai pris des cours de piano pendant quelques années. Donc le piano c'était vraiment mon instrument, celui qui me permettait de rêvasser et de penser à autre chose. Et pendant le stage de classe de troisième, quand on est au collège, on a eu l'idée donc avec mes parents de demander à donc Daniel Parizeau, qui était du coup l'accordeur du piano de la maison, celui qui nous avait proposé le nouveau piano qu'on avait, etc. Donc de faire un stage avec lui. Donc il a accepté bien gentiment parce que voilà, un stagiaire de troisième, c'est un peu dans vos pattes.
Nous connaissons Nana, toujours un peu délicat, on ne sait pas trop quoi leur dire, comment les prendre.
Exactement.
Comment les impliquer, c'est complexe.
Voilà, donc Daniel était assez pris, mais malgré tout, il a réussi à prendre du temps pour moi pendant une semaine, donc cette semaine-là, et j'ai découvert que dans la vie, on pouvait faire autre chose que de rester assis à un bureau face à quelqu'un qui nous explique la vie, voilà des matières. Et j'ai trouvé que c'était fantastique de pouvoir faire quelque chose avec ses mains, quelque chose qui était passionnant et qu'on ne nous apprenait pas forcément à l'école, quoi.
D'où l'intérêt du stage de troisième, si certains se demandent
exactement
à quoi ça sert. Ça peut susciter des vocations, des enthousiasmes. Et là-dessus, vous avez fait un BMA, on dirait ce que c'est qu'un BMA, de technicien en facture instrumentale, option piano. Et alors là, vous êtes passé du piano droit au piano à queue.
C'est ça, le BMA, donc c'est le brevet des métiers d'art. Donc,
Ça se fait où tout ça ? Le CAP d'assistance technique et le BMA, vous les avez fait à Toulouse ?
Alors officiellement, il y a une école en France qui propose cette formation-là. C'est l'ITEM, c'est l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Donc elle est basée au Mans. Voilà. Et donc dans cette école-là, vous avez tout ce qui est facture instrumentale, donc vraiment, on va dire, création de l'instrument, d'instruments à vent, de guitare, d'accordéon. Vous avez tout ce qui est aussi enregistrement, enfin tout ce qui est sonorisation, et aussi pour les pianos. Donc en BMA, on apprend comment on construit un piano à queue, ou en tout cas comment on le restaure, comment on le répare en fait.
Est-ce qu'on apprend aussi à faire à fabriquer des instruments, guitare, violon, etc.
Alors on apprend ça, mais moi j'étais donc dans la spécialité piano. Donc,
vous n'êtes pas intéressé, vous disiez tout à l'heure c'est bien de faire quelque chose avec ses mains plutôt ouais, que d'être devant un ordinateur ou devant une autre personne. Ça ne vous a pas intéressé de fabriquer ? Alors le piano c'est peut-être un peu compliqué, mais Remarquez, le violon, c'est pas plus simple non plus.
Non, c'est pas. C'est intéressant de fabriquer, mais aujourd'hui, le piano, c'est tellement. Il y a plus de 20 tonnes de tension dans un piano. Il y a plus de. Entre 10 et 15 000 pièces. Enfin, c'est vraiment. C'est tout un art. C'est comme une voiture. On peut en réparer de temps en temps, mais c'est vrai que la création d'une voiture. C'est assez complexe, et un piano c'est plein de malgré tout c'est très poétique comme instrument, mais c'est plein de calculs, c'est plein de tensions, c'est plein d'inconvénients, plein de.
Vous êtes une très jeune femme. Est-ce qu'il n'y avait d'autres jeunes femmes avec vous, ou est-ce qu'il y avait plus de garçons que de filles, ou c'est un métier qui peut être exercé indépendamment de tout genre?
Alors c'est un métier qui peut être effectivement exercé indépendamment de tout genre. Malgré tout, il y a quand même beaucoup plus de, enfin un peu plus de d'hommes dans ce métier-là, puisque je sais pas d'ailleurs, c'est une très bonne question. Nous, en tout cas, l'idée de l'accordeur qu'on en fait, quand on l'appelle, quand on ouvre la porte, on s'attend plutôt à voir un homme de 60 ans, un peu barbu, parabouclé quand même.
Je rassure les auditeurs, c'est pas tout à fait votre cas.
Hein. Non, mais donc c'est assez rigolo, parce que souvent, voilà, on me demande ce que je fais devant la porte. Donc je réponds, ben, je vais raccorder votre piano, vous allez voir, ça va bien se passer et il va être formidable. Donc voilà, c'est l'idée. Mais on était quelques-uns à commencer à moins de 20 ans, puisque j'ai commencé après le bac. Mais la moyenne d'âge était à peu près de, je sais pas, la trentaine. Voilà, il y avait tout âge en fait.
Pourquoi on fait ça sur le tard un peu, enfin au moins pour des études?
Justement, on peut d'abord le CAP, vous n'avez pas besoin du bac, donc si jamais ça peut être, vous pouvez changer de profession, de formation, c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, inédit par rapport à tout ce qu'on vous a appris depuis votre plus jeune âge, donc c'est vraiment une découverte en fait.
Vous avez dit que vous aviez joué du piano, oui. Donc vous êtes pianiste, ça ne vous a pas intéressé de continuer dans cette voie, de faire une carrière purement musicale?
Non, je crois pas. J'avais pas envie d'être pianiste, et puis pianiste. Alors on englobe les gens qui appuient sur des touches. Effectivement, ça c'est des pianistes, et vous avez complètement raison. Mais moi aujourd'hui, quand je vois des pianistes en herbe et des pianistes concertistes, etc. Il y a différentes sortes de pianistes, et moi c'était quelque chose qui me permettait vraiment de changer d'air. Donc c'était pas je voulais pas vraiment que y mettre de la rigueur, y mettre vraiment ce que d'abord avant j'appelais donc du travail, et pour moi ce qui était plutôt négatif. On va pas se mentir, les ados, tout ce qui est travail, c'est pas ultra intéressant, en tout cas moi. Donc je voulais pas mettre trop de rigueur là-dedans, et je voulais surtout je suis pas une poète, mais disons que j'aime bien rêvasser, et ça m'aurait pas plu de devoir vraiment travailler, quoi.
Et pourtant, maintenant, c'est bien ce que vous faites. Ouais. On y viendra tout à l'heure. Alors, vous avez fait des stages, parce que vous l'avez dit, le piano est un instrument extrêmement complexe. Vous êtes allé faire des stages chez Yamaha, je crois.
C'est oui.
Ça. Mais Yamaha, ça se passe comment quand on fait un stage chez Yamaha? Alors, Yamaha, on pense toujours aux motos, mais je crois qu'ils ont commencé par fabriquer des instruments de musique et des pianos. Et puis après, avec le surplus des pièces, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ils ont versé dans la moto, c'est pas tout à fait le même monde.
Non, alors c'est plus ou moins ça effectivement, mais si vous regardez le sigle de Yamaha, qui est une formidable marque et que moi j'aime beaucoup, en fait vous avez trois diapasons qui sont entourés d'un cercle.
Je n'avais pas remarqué, mais maintenant
vous regarderez.
Je vais y faire attention. Donc Yamaha, sur la moto, il y a des diapasons.
C'est ça, et en fait Yamaha, ça a démarré par le piano, et ensuite effectivement il y a eu plein de choses qui sont passées. La guerre, une évolution, une ouverture au monde, etc. Donc ils ont commencé à créer des moteurs, des bateaux, des voitures, et puis aussi beaucoup d'instruments de musique et des amplis. Enfin bref, ils sont bien plus polyvalents que n'importe quelle marque, mais c'est des Japonais et ils le font très bien.
Ensuite, pour compléter, pour suivre votre parcours, vous avez fait un parcours très complet. Vous avez fait un stage, vous avez expliqué ce que c'est, finition, harmonisation sur un piano grand concert. Donc là, il faut que vous nous décodiez ça.
D'accord. Alors, vous avez plusieurs stages possibles, donc suivant les différentes marques. Et effectivement, dans notre métier, vous avez plusieurs activités. Donc, vous êtes technicien piano, mais en tant que technicien piano, vous avez un panel de possibilités. Vous pouvez faire que de l'accord, donc aller en clientèle ou avoir un magasin. Vous pouvez faire de la restauration, de la réparation, vous pouvez faire du service concert, vous pouvez faire de la vente, que de la location, que des expertises, etc. Donc ça, c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Et nous, donc dans notre entreprise chez Piano Parizeau, on fait donc beaucoup de choses et on fait du service concert. Et le service concert, c'est assez particulier parce que nous, on a des pianos donc, qu'on pose sur scène, qu'on loue, et c'est là qu'on s'est rencontrés la dernière fois. Ce piano va permettre aux pianistes, donc aux musiciens, de jouer et de développer ce qu'il a travaillé. Et voilà, il permet le piano permet en fait aux pianistes de d'évoluer et de s'exprimer. Et donc nous, on va devoir travailler avec l'artiste sur le piano en question pour savoir si le toucher lui convient, si le son lui convient, puisque le pianiste est le seul musicien, donc quasiment le seul, qui ne se balade pas avec son propre instrument. Ce qui est compliqué.
Oui, c'est compliqué parce que chaque fois, il se trouve devant un engin nouveau. J'imagine qu'il n'en choisit pas la marque, il prend ce qu'il trouve.
Alors, plus ou moins, c'est...
Il y a quelques divas peut-être qui peuvent dire « je veux celui-là », non ?
Oui, alors vous avez quelques divas qui peuvent le faire. Ensuite, nous, on prend toujours en compte les préférences de l'artiste, mais en service concert, donc nous, c'est des pianos c'est un peu notre propriété et qu'on loue. Donc on ne va pas en avoir 50 000 non plus. On n'est pas vraiment un fournisseur d'une seule marque. On ne peut pas en avoir 50 dans le service concert. Déjà, nous, on en a 10 ou 12, je ne me souviens plus, et on est un des plus grands services concerts de France. Donc à 3 techniciens et on peut avoir, nous effectivement on est concessionnaire officiel de Yamaha, Stan Grieber, Bechstein, Steinway et donc avec ces 4 marques là on peut proposer aux pianistes un piano souvent c'est des demi-queues ou des grands concerts de chacune des marques et lui ensuite choisit par rapport à sa préférence effectivement.
Alors quand il y a une série de concerts par exemple comme le Quattro Jacobin, je crois pas que ce soit vous qui l'ayez. Il est servier.
Si, c'est complètement.
Vous. Bon, mais alors là, c'est toujours le même piano, parce que tous les soirs, il y a un nouvel artiste. On ne va pas changer le piano en permanence, en fonction des goûts du pianiste, si ?
Non. Alors, l'idée, c'est d'avoir toujours un piano extrêmement récent. Au couvent des Jacobins, c'est du Steinway & Sons. Et on a trois grands concerts de chez Steinway, de simplement cette marque-là. Et les trois pianos, en fait, ont une fonction différentes. Alors comme ça paraît très geek, mais on a un piano pour tout ce qui est récital, piano solo, etc. On a un piano vraiment plus pour par exemple du jazz ou pour l'extérieur qui va beaucoup plus envoyer du son, il va être beaucoup plus sonore. On aura un piano beaucoup plus pour orchestre, pour jazz, pour classique, enfin voilà. Donc ça va dépendre des formations, ça va dépendre des lieux aussi, et nous vu qu'on on travaille tous les jours avec ces pianos-là, on connaît un peu leur personnalité. Un piano, c'est vivant. Il faut se rendre compte qu'il y a plus de 70% de bois. Comme ça, ça paraît vraiment bizarre, mais c'est vivant. Ça exprime beaucoup de choses. Nous, on va pouvoir choisir effectivement le piano adéquat en fonction de l'endroit et de ce qui est prévu, de ce qui est programmé.
Vous venez de dire que vous privilégiez dans certaines circonstances des pianos neufs. Pourquoi le piano neuf, il est plus performant que l'ancien ?
Non, alors ça c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais le en tout cas nous on nous encourage à avoir des pianos récents et les pianos récents, encore une fois comme ce qu'on a dit juste avant, le pianiste c'est le seul musicien à ne pas avoir son propre instrument, donc à ne pas se déplacer avec. Donc pour ne pas avoir de surprise, on va dire, sur scène, les productions demandent un certain âge maximal dans la location de leur piano.
Comment ça se passe la relation avec le pianiste ? Il arrive, il va essayer le piano, j'imagine, il va répéter.
Ouais.
Vous allez être avec lui, vraisemblablement, pour opérer les réglages qu'il souhaite ou que vous pensez devoir faire. Comment ça se passe, le rapport avec ces grands pianistes, ces grands concertistes?
Sont
comment ces femmes et ces hommes?
Top.
Ils sont tous top. ils sont sympas, ils sont ouverts, ils vous considèrent comme un partenaire ou alors comme... je sais pas, lui c'est le pilote de Grand Prix et oui. Vous êtes le mécanicien qui allait changer les roues éventuellement. Quel est le rapport entre vous deux?
Alors ça, c'est tout dépend de l'artiste qu'on a effectivement devant soi, puisque on est sans... Alors moi, j'aime pas dire, par exemple, travailler pour quelqu'un. Moi, j'estime que dans notre métier, on travaille avec les artistes. Effectivement, c'est eux qui vendent du rêve, qui nous font profiter de vraiment de leur travail. Mais tout ce qui est en amont, c'est quand même le technicien qui le fait. Et j'aime dire que voilà, on travaille ensemble, un peu main dans la main, si je peux dire ça comme ça. Donc l'idée, c'est que nous, on transporte le piano. C'est une particularité qui est vraiment destinée à notre métier de location concert et de prestation concert, puisque donc on a les grandes boîtes parisiennes peuvent se permettre d'avoir des transporteurs qui ne font que ça. Nous, dans notre Toulouse, on n'a pas...
Et c'est justement là que vous m'avez extrêmement étonné, parce que quand j'étais à ce concert, donc on a écouté tous les deux,
oui.
Un peu à l'extérieur de Toulouse, j'ai dit, mais le piano, il reste là. Non, on m'a dit, la jeune femme qui l'a amené le reprend. Alors, moi, je regardais ça, au début, je ne voulais pas le croire parce qu'il y a on est en pays de rugby, donc vous savez, il y a toujours des formules. Et on disait, pour les pianos, il y a ceux qui... On faisait un parallèle avec les joueurs de rugby. Il y a ceux qui en jouent et ceux qui les transportent. Donc, on voit à peu près ce qu'on veut dire. Alors, pour moi, les transporteurs de piano, c'était quatre types très costauds. Oui. Et là, j'ai vu une toute jeune femme, pas frêle, mais quand même, et qui a emballé ce piano et qui l'a transporté. Alors là, j'avoue que je crois que ça m'a autant intéressé que le concert qui était par ailleurs remarquable.
Oui, merci.
Il faut que vous expliquiez un peu comment vous arrivez à transporter un piano qui pèse quoi, combien
Tout dépend du piano, mais ça peut peser jusqu'à 400 kilos. Et ensuite, on a trouvé des moyens techniques. Il y a des gens formidables avec des cerveaux formidables également qui ont estimé que voilà, se casser le dos, ça suffisait. On n'avait pas besoin de faire ça pour transporter, mais que ce soit des pianos ou autre chose. Et donc, c'est comme les pyramides. À un moment donné, on s'est dit, ça sert à rien de les faire à la main. Quoi. Et puis ces personnes-là sont intelligentes, donc nous on récupère ça et grâce à des mécanismes, même des machines qui sont créées, on peut transporter les pianos avec un peu de logistique et un peu d'entraînement. Je veux dire, tout le monde peut le faire, quoi.
Oui, enfin tout le monde, je ne sais pas, mais c'est vrai que le transport de ce piano de 400 kilos vous a pas trop posé de problème avec un engin adapté, une espèce de robot intelligent qui a embarqué ce piano sur son petit dos et qui l'a amené dans le camion. C'était assez curieux à voir.
Oui, mais de toute façon, que ce soit effectivement mes camarades extraordinaires ou moi-même, on étonne le public, quoi. C'est un peu le deuxième spectacle de la soirée.
Voilà, j'allais le dire, c'est le deuxième spectacle. Ouais. Il faut absolument rester dans la salle pour voir ça. Alors, vous avez cité une marque de piano, les pianos Parizeau, et Monsieur Parizeau qui vous a accueilli toute jeune. Et puis après, on y viendra à la fin de l'émission, vous en reparlerez de lui. Mais ce Monsieur Parizeau vous a embauché, vous avez travaillé pour lui.
Oui.
Et puis un jour, il a dit, si j'ai bien compris, écoutez les enfants, je suis d'âge de partir à la retraite. Mais j'ai quand même une entreprise qui est connue, qui tourne, et c'est vrai que dans la région, elle est très connue. Et il vous a proposé, avec vos associés, qui étaient donc vos collègues, j'imagine, à l'époque, de la reprendre.
C'est ça.
Et là, vous avez fait le grand saut.
On a fait le grand saut, mais donc c'est une entreprise qui est tellement conséquente qu'on n'aurait jamais pu le faire tout seul. Donc on s'est pris la main et on s'est regardé un peu dans les yeux. On a dit, allez, est-ce qu'on s'aime très fort? Oui. Est-ce qu'on a confiance en les uns en les autres? On a dit oui. Alors ok, c'est parti.
Et donc, ça ne vous a pas fait peur, parce que vous êtes, encore une fois, je le répète, vous êtes une très jeune femme. Ça ne vous a pas fait peur de vous lancer dans cette aventure qui est quand même pas très très évidente, de gérer une entreprise, de l'assumer, une très vieille entreprise avec quand même pas mal de technicité, avec tout ce que ça implique, parce que je crois que quand on est chef d'entreprise, pour en avoir connu beaucoup, c'est du 100% du temps.
c'est du 100% du temps. Alors ça, on l'apprend au fur et à mesure de l'expérience, mais c'est vrai que c'est un, voilà, c'est un challenge, on ne peut pas dire le contraire. On a fait ça au départ, on était donc tous les trois. Donc il y a Frédéric qui, lui, travaille depuis... quelque chose genre 15 ans ou 18 ans dans l'entreprise. Donc lui qui faisait que de la prestation concert, donc lui était vraiment, enfin voilà, il a amené l'entreprise à grandir et à être comme elle est aujourd'hui. Il y a Clément qui lui est plutôt fait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'accords en clientèle, qui lui aussi, ça fait 8 ou 9 ans qu'il était là. Et moi, j'ai fait mes 4 ans d'alternance, ensuite j'ai fait 6 mois en gros en CDI, et puis mais tous les trois on se connaissait plutôt bien. Et puis voilà, quand on a un métier aussi intéressant et passionnant que le nôtre, de toute façon, même en tant que salarié, on s'y investit énormément. Et puis vu que voilà, nous trois, on s'aimait déjà très fort, parce que c'est important aussi.
Il vaut mieux s'aimer, s'apprécier, avoir confiance les uns dans les autres.
Dans une histoire et dans une aventure comme celle-là, c'est une famille, quoi. Donc on était tous les trois, et puis effectivement, Gaël nous a rejoint ensuite, et tous les quatre. Voilà, on a décidé de se lancer là-dedans. C'est une expérience tous les jours, comme on aime bien dire avec Fred, c'est une aventure chaque jour, et on ne sait pas ce qui va se passer le matin et le soir. On est épuisé, mais on a réellement vécu mille et une choses.
Et les clients ont accepté de vous accepter comme successeur de Monsieur Parisot. Ils vous ont fait confiance, sans problème.
Alors, ils nous ont fait confiance puisqu'ils nous voient depuis longtemps, encore une fois. Et puis, Daniel a merveilleusement fait la passation.
Daniel Parisot, donc.
Voilà,
oui.
Daniel Parisot. Il a fait la passation de façon assez naturelle, se mettant en retrait de plus en plus. Et puis voilà. Donc, évidemment, on a toujours la Danielite. Moi, j'aime bien l'embêter en disant les petites vieilles du Tarn, parce qu'il habitait là-bas avant, que l'entreprise était là-bas aussi. Et qui demandent tout de suite Daniel quand elles appellent et qu'elles veulent un rendez-vous. De façon générale, ça s'est plutôt bien passé et ça se passe bien aujourd'hui. Et ça, c'est cool, ça fait du bien.
On fait une première pause musicale. Alors, c'est vous qui l'avez choisi.
Oui.
Je crois qu'il s'agit de Liane La Havas.
Oui, c'est ça.
Et pourquoi vous avez fait ce choix?
Parce que
vous plaît là-dedans.
Je me disais que c'était une bonne idée, puisque nous, voilà, on est une équipe jeune qui a repris l'entreprise de Piano Parisot, et donc cette personne formidable, elle a repris une chanson d'Aretha Franklin et elle le fait vraiment très très bien.
Donc, eh bien, on l'écoute.
Here goes. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear, and while I'm riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you.
Let's try that again. You do the backing vocals.
And
my darling, believe me. For me, there is no one but you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayers now, baby. Say you love me too. Answer my prayers now, baby. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me.
Voilà le choix musical de notre invitée Barbara Duval, associée des pianos Parizeau. Alors, on a beaucoup parlé de piano, mais il faudrait maintenant que vous nous expliquiez. On sait que c'est un instrument très technique, très complexe. Alors, comment ça marche un piano ? Comment ça se passe là-dedans, dans cette grosse caisse que l'on voit ? Il y en a qui sont magnifiques. Je n'ai même vu, vous n'avez pas cité des marques italiennes. Je me souviens d'avoir vu un piano de concert italien.
Fagioli, peut-être.
Oui, peut-être. J'ai plus le nom en tête. Ça m'avait séduit. Enfin, moi, je suis pas du tout pianiste, mais avoir ça chez soi. Bon, déjà, il faut quand même beaucoup, beaucoup de place. Mais c'est un engin absolument magnifique.
C'est complexe et magnifique, et c'est ça qui est formé. C'est un peu poétique. C'est on va.
C'est mystérieux aussi cette.
Mais bien sûr, puisque vous avez vraiment un meuble qui cache tout ce qui se passe à l'intérieur, et donc voilà, vous avez une mécanique, enfin tout en action. Donc l'idée, c'est que vous appuyez vous en tant que pianiste sur une touche qui en fait est une sorte de catapulte, voilà. Et qui va venir mettre en action une mécanique. Donc la mécanique, elle, donc par plusieurs pièces, va venir pousser un marteau. Donc un marteau, ça, enfin c'est une tige avec une tête en feutre, en bois et en feutre, qui est vraiment compacte. Et donc cette tête-là, elle va venir frapper les cordes, et les cordes vont venir en fait vibrer tout simplement. Et cette vibration va se retransmettre par une pièce qui s'appelle le chevalet sur une table d'harmonie. Et la table d'harmonie, c'est comme une enceinte naturelle. Elle va venir vraiment faire, enfin augmenter le volume. Et c'est pour ça que vous pouvez entendre du son en fait. C'est parce que tout dans le piano résonne. Tout est scrupuleusement travaillé et réfléchi pour que le son soit optimal, donc ne parte pas n'importe où et puisse voilà, atteindre son but.
Il y a des pianos droits, c'est là que vous avez commencé, hein, on en parlait tout à l'heure. Il y a des pianos à queue, je sais qu'il y a aussi des pianos numériques.
Oui.
C'est la même chose tout ça ?
L'idée est identique, c'est-à-dire que vous avez un piano à queue, c'est la mécanique en fait, elle est à l'horizontale. Dans un piano droit, la mécanique est verticale. C'est le plan de corde aussi est horizontal dans un piano à queue, alors que dans un piano droit, tout est vertical. En fait, tout est debout pour prendre moins de place. Un piano numérique, c'est encore complètement différent, puisque les numériques, c'est que de l'électronique. Voilà,
ça donne le même résultat.
C'est pas exactement le même résultat. J'ai pas de comparaison là tout de suite, c'est dommage, mais vous pouvez pas avoir une même sensation avec quelque chose qui résonne, qui est naturel, qui est en feutre, qui est en bois, etc., avec de l'électronique, du plastique. Ensuite, les marques travaillent dessus, sur les échantillonnages, etc. C'est des instruments, en tout cas, qui s'améliorent de jour en jour, mais vous resterez, vous ferez beaucoup plus plaisir et toujours, et j'en suis persuadée, sur un piano acoustique. Regardez bien en prestation concert et même en concert, vous n'avez jamais de numérique, quoi. C'est que de l'acoustique.
Alors on parle de toujours d'instruments à cordes, mais oui. Par exemple le violoncelle ou autre engin, d'autres instruments de musique comparables, il y en a qui sont extrêmement anciens, qui font tout leur prix, notamment sur des violons. Il y a des oui. musiciens qui jouent sur des violons qui ont 100, 200, 300 ans,
oui.
qui sont de véritables œuvres d'art aussi. C'est pas pareil pour le piano, apparemment. On peut jouer et avoir une qualité de son sur des pianos extrêmement récents. Est-ce que la comparaison elle est pertinente même ? Peut-être pas.
C'est pas exactement la même chose puisque le violon c'est un instrument qui est très beau mais qui est peut-être un peu moins complexe. Il a sa complexité, attention, mais il est peut-être un peu moins complexe que le piano. Et c'est vrai que le piano, au fur et à mesure du temps, on a fait tellement d'évolutions et tellement de voilà, il y a eu tellement de nouveautés sur les instruments que en prendre un qui a d'il y a 300 ans à celui d'aujourd'hui, on va pas du tout avoir la même façon de travailler. Et par exemple, vous voulez jouer une pièce de, je sais pas, de Rachmaninov ou de Liszt sur des pianos d'il y a voilà qui du début, en fait les pianos du début, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés parce qu'ils seront
les pianos forte, on l'appelle ouais. toujours d'ailleurs piano forte en Italie, hein.
Oui, c'est ça. Et aujourd'hui ils seront beaucoup plus efficaces et donc vous allez pouvoir voilà jouer beaucoup plus vite, avoir beaucoup plus de volupté, de mélodie, mais encore une fois, ça c'est peut-être personnel comme idée, puisque vous avez des restaurateurs d'anciens pianos qui resteront là-dessus et qui diront que c'est vraiment les meilleurs pianos du monde. Et d'un autre côté, ils auront pas tort. C'est effectivement une façon de voir les choses. C'est pas exactement la même chose au fur et à mesure du temps, quoi.
Alors dans un piano, il y a 88 touches. Regardez, oui. hein, de 36 touches noires et 50 de blanches. Ça veut dire qu'il y a autant de cordes que de touches ?
Non. Vous avez donc l'idée, c'est qu'au départ, vous aviez donc une corde par touche. Et aujourd'hui, on en veut toujours plus, on est d'accord. Et donc, pour avoir plus de son et pour avoir beaucoup plus de puissance sonore, de volume, on a rajouté des cordes. Et le fait de rajouter des cordes, ça augmente le son. Et donc, ça a permis, à un moment donné, de réduire la longueur des pianos. Puisqu'ils sont déjà aujourd'hui assez grands, puisqu'ils font un tout petit peu moins de 2,75. Et donc, rajouter des cordes, ça a permis effectivement de diminuer la taille des pianos, qui sont déjà suffisamment grands.
Et comment on peut diminuer la taille d'un piano en rajoutant justement des cordes ? Parce qu'il faut plus de place s'il y a des cordes. Donc, comment on peut diminuer en rajoutant ?
Ensuite, c'est un travail de plan de cordes, c'est un travail de structure du piano, mais vous pouvez... Ensuite, vous l'élargissez, vous ne l'allongez pas forcément, puis vous rajoutez des cordes, etc.
Est-ce que la longueur de la corde joue ? Oui, parce qu'on voit les pianos, ils ont quand même des formes différentes et on voit bien qu'il y a certaines cordes qui nécessairement sont plus courtes que d'autres.
Oui, vous avez la longueur de la corde diffère en fonction de la note, vous avez aussi la taille, son diamètre, vous avez aussi la matière de la corde. Puis vous avez sa tension aussi qui change.
Alors justement, la matière, on parle de cordes, mais ce ne sont pas des cordes en réalité.
C'est de l'acier en fait. Voilà, aujourd'hui c'est de l'acier, avant c'était des boyaux, tout ça. Et aujourd'hui on a remplacé ça par de l'acier, et puis dans les basses du coup c'est de l'acier entouré de cuivre. Voilà.
Donc c'est quelque chose qui... c'est la tension de la corde. Alors le métier de la corde,
oui.
c'est de donner un son parfait. Et donc, chaque corde donne la bonne note, c'est ça ?
Nous, dans l'idée, on tend les cordes d'une manière à ce que le piano, en fait, sonne. C'est le tempérament égal, donc c'est pas un piano qui sera... Donc ça c'est un peu plus technique, mais disons que le tempérament égal, c'est pas un tempérament qui est parfait, puisqu'on va venir, mettre dans notre base d'accord plein de petits défauts qui fait que le piano, en fait, sonnera bien, qui sera très beau. Et donc ensuite, on va mettre tous ces petits défauts-là, en fait, sur tout le piano, on va l'agrandir, et puis donc des basses jusqu'aux aigus, et l'accordeur, lui, avec sa clé d'accord, etc., et ses oreilles, va jouer sur la tension, sur les tensions des cordes, pour le rendre beau, quoi.
Un accordeur sait toujours jouer du piano ou pas ? Il faut avoir l'oreille absolue, deuxième question.
Non, l'oreille absolue, alors pour moi, voilà, je ne sais pas s'il y a plusieurs définitions, mais pour moi, l'oreille absolue, c'est que vous jouez une note et moi, je suis censée savoir laquelle c'est.
Voilà.
Voilà, et ben pas du tout. Et même d'ailleurs, je pense que c'est ça défavorise celui qui a l'oreille absolue puisque il a une référence. Et si vous voulez par exemple changer de diapason, etc., monter le piano ou le descendre, et ben ça va le perturber quoi. Donc non, pas de. Je pense que l'oreille absolue dans l'accord, c'est pas forcément une bonne idée. Et ensuite, pour essayer son accord et pour essayer de, et voir si son piano sonne bien, c'est bien de savoir jouer un ou deux morceaux et pour se rendre compte en fait de son travail.
Le musicien qui va jouer, oui. Il va travailler avec l'accordeur, il va lui dire je voudrais telle, alors je vais peut-être pas employer le bon mot, vous me corrigerez, telle sonorité sur, oui. Sur c'est ça, tu me la tends un peu plus ou tu me la détends, j'ai compris qu'on vissait, il y a une clé et oui. On tend la corde, plus on la tend, plus elle sonne
aiguë. C'est ça.
Donc on peut relâcher, on peut tendre, on peut...
Mécaniquement ça fait ça, ensuite le pianiste lui, il laissera l'idée c'est de travailler donc en travaillant ensemble nous on essaie de comprendre aussi ce que disent les pianistes puisque pour chaque sentiment vous avez différents mots, en tout cas vous pouvez en employer un et moi je peux en employer un autre donc pour ça on a besoin de d'abord bien écouter, bien comprendre ce que veut l'artiste et lui cherchera peut-être plutôt une ambiance, il cherchera une chaleur dans les notes ou en tout cas dans le son, plutôt que de nous dire oui, il faut le tendre là, il faut le détendre ici. Ce sera plus un aspect général plutôt que technique. Et ensuite, nous, effectivement, on va le traduire techniquement par ah oui, là, d'accord, il faut que je tende plus, là, il faut que je gonfle un peu les marteaux, que j'harmonise ou que voilà.
Quand on va au concert, avant le début du concert, on voit les violonistes, les violoncellistes et autres qui se règlent même leur instrument. Oui. On les voit tourner un peu, écouter, rejouer. Enfin, bon, tout ça est très fin. Là, ils se le font eux-mêmes. Tandis que le pianiste, il est complètement dépendant de l'accordeur. Oui. J'imagine que le pianiste, ce n'est pas du tout comme un accord d'un piano. Enfin, il en a une idée générale, vraisemblablement, mais est-ce qu'il serait capable de le faire ?
Oh, c'est un métier. Hein.
Oui, c'est ça. Voilà, enfin. Je me doute d'un métier que vous maîtrisez. C'est fait en quoi un piano ? Alors, il y a du bois, manifestement. Oui. Il y a des cordes en acier, on l'a dit. Vous avez évoqué aussi le feutre. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose ?
Vous avez de la laine. Ensuite, vous avez différents alliages d'acier. Vous avez du laiton. Tout ce qui recouvre, en tout cas, le meuble, c'est du vernis, la table elle est en épicéa, les touches peuvent être souvent en sapin, vous avez aussi un revêtement en plastique,
autrefois en ivoire, mais maintenant on ne le fait plus pour des raisons que je n'ai pas besoin de commenter,
et même de l'ivoire de mammouth si vous voulez tout savoir, on en a tellement retrouvé qu'il y a des claviers en ivoire de mammouth, et oui c'est inédit mais c'est très drôle.
Ces pianos, extrêmement complexes, ils travaillent, tous ces matériaux travaillent. C'est pour ça qu'il faut accorder en permanence, parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, parce que peut-être les conditions, l'humidité, les conditions ont pu changer. Et donc, il va falloir chaque fois réajuster.
C'est ça. Puisque vous avez une corde qui est tendue, en fait, vous avez une corde qui est tendue, et nous, on vient qui est enroulée autour d'une cheville, et donc la cheville, elle est plantée dans du bois. Et le bois, tout le monde le sait, de toute façon, ça voit, ça vit. Donc, ça peut gonfler s'il y a trop d'humidité ou s'il y a de l'humidité et sécher, donc se rétracter si l'ambiance est un peu sèche. Donc tout ça, ça va faire bouger en fait ces éléments-là. Et donc en les faisant bouger, ça va tendre ou détendre les cordes. Et c'est pour ça que quand on a un piano, on évite de le mettre juste à côté d'une baie vitrée ou d'un chauffage, d'un radiateur. Et on essaie toujours d'avoir la même hygrométrie, pas forcément la même température, mais c'est toujours mieux, mais la même hygrométrie. Donc entre 40 et 60% d'humidité, et on encourage vivement mille fois à faire un accord au minimum par an. Voilà.
Ça, le transport, ça les use ou ça les dérègle
le transport de piano de concert ?
Ouais, ouais.
Non. Parce que
donc c'est pas si fragile que ça.
Alors, c'est fragile, mais disons que nous, on a une façon de faire, une façon de procéder qui est assez, malgré tout, rigoureuse. On a des pianos qui sont protégés, on a des véhicules aussi qui sont protégés voilà, de trop de chaleur ou de trop de froid, etc. Et donc, vous avez des mousses, enfin bref, vous avez tout ce qu'il faut pour que le piano, lui, ne soit pas impacté par un changement brutal de température et surtout d'humidité. Voilà.
La tension des cordes, ça peut être un danger si la corde lâche. C'est déjà arrivé que des cordes claquent.
Bien sûr.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si vous êtes derrière, j'imagine que vous faites découper. On parle souvent dans les polars de cordes à piano. Vous savez, on va étrangler oui. les gens avec des cordes à piano.
Oui. Alors, ne faites pas ça chez vous.
Oui, il faut essayer. Mais c'est de la littérature ou c'est vrai ? Ça peut devenir une arme, une corde à piano.
Alors, j'imagine que ça peut devenir une arme. Je ne m'en suis pas forcément... j'y ai pas réfléchi un soir dans mon lit en disant qu'est-ce que je pourrais faire avec. Mais effectivement, une corde, c'est à un moment donné, c'est un point d'impact, un point de rupture qui fait que si vous le dépassez, la corde se casse en deux puisque elle n'a plus d'élasticité. Et à ce moment-là, vous la changez. Tout simplement. Et si ça arrive en prestation concert, c'est pas de chance parce que souvent sur nous, on n'a pas tous les diamètres de cordes, puis c'est assez spécifique par marque aussi. Donc ensuite, il va falloir faire une recherche, il va falloir commander cette corde-là pour pouvoir la remettre ensuite à nouveau sur le piano. Mais effectivement, ça arrive en clientèle particulier sur des vieux pianos des fois qui ont des cordes trop abîmées et qui effectivement casse à un moment donné parce qu'elles sont en fin de vie et que c'est comme ça.
Alors un instrument très technique, un instrument très complexe et donc un instrument très cher.
Oui. Mais c'est un instrument effectivement qui est onéreux, qui vaut le coup, mais qui est expliqué effectivement par le temps de séchage des matériaux, par sa fabrication. C'est fait main, quelque chose.
Parlons.
C'est de l'art. Hein.
Oui, c'est de l'art, mais bon, soyons bassement concret, si je viens acheter un piano chez Parisso, ça va me coûter combien ? Alors vous allez me dire, ça dépend, ça
passe. Ah oui.
Dites-nous, révélez-nous un peu les prix, là. Comment ça fonctionne ?
Ensuite, c'est les prix par rapport aux marques. Tout dépend de s'il est neuf, s'il est d'occasion, s'il a 10, 20, 30 ans.
Il y a des Rolls du piano, j'imagine.
Bien sûr. Tout ce qui est de toute façon grand concert,
alors, piano, grand concert
haut de gamme.
Comme celui que vous portez pour des grands pianistes, qu'est-ce que ça vaut ?
Ça vaut un petit appartement. On est aux alentours de 180, 200 000 euros. Donc, faut pas le faire tomber. Voilà.
Je pense que c'est
une base, mais
ça
c'est bien
toujours
de la,
inquiéter
c'est bien de la répéter.
L'assureur, ça c'est pour les grands pianos, pour les pianos de professionnels. Si j'en ai un chez moi, un demi-queue par exemple, ça va me coûter combien ? À peu près neuf, d'une marque correcte, en moyenne. Une petite fourchette.
Une fourchette. Vraiment, tout va dépendre du piano, mais disons que les entrées de gamme de chez Yamaha pour des personnes qui veulent débuter le piano, on propose la gamme de la B, qui s'appelle, c'est la gamme des B, qui est japonaise, indonésienne, et on va être autour des, ça va de 3500 à effectivement au plus haut de gamme à un petit appartement, quoi. Mais donc vraiment tout va dépendre de l'instrument, de son modèle, de sa provenance, de son état.
Qui c'est qui vous achète des... Parce que vous en vendez, vous en louez certes, mais vous en
magasin.
Vendez. Oui, qui va bientôt s'agrandir. On attend les invitations pour inaugurer le nouveau magasin.
Très bien, avec plaisir.
On en dira un mot tout à l'heure. Mais qui c'est qui vous achète des pianos ? C'est des jeunes, c'est des anciens, c'est des gens qui débutent ou des gens qui veulent se faire plaisir ? Quelle est un peu la typologie de vos clients ?
Je dirais que tout d'abord, c'est des gens qui sont curieux.
À ce prix-là, et compte tenu de la complexité de l'instrument, il faut être plus que curieux quand même.
Oui, faut être curieux, faut aimer le piano, faut aimer la musique, ce sera vraiment la base. Et ensuite, effectivement, si on a des clients avec une demande, par exemple, d'un piano haut de gamme ou même milieu de gamme, enfin peu importe, c'est souvent des pianistes ou des personnes qui veulent se faire plaisir.
Il faut quand même savoir jouer de l'instrument, on va pas.
Pas forcément,
ça.
Vous seriez
non,
étonné.
Oui.
Non, mais c'est un un produit de luxe. Donc tous les produits de luxe, vous n'en avez pas forcément besoin. C'est juste que voilà, ça donne envie, c'est de la qualité, c'est du son, c'est de la volupté, donc pourquoi pas.
Ah, de la volupté, fabuleux. Très beau mot, la volupté. On fait une deuxième pause musicale. On écoute Abdul Mohamed.
Oui.
Qu'est-ce qu'il nous chante?
Alors, il chante une chanson d'amour et c'est ma...
Pour la volupté, c'est super.
C'est ça. Et puis, c'est ma sœur formidable. J'ai une sœur jumelle qui est incroyable et c'est elle qui me l'a fait découvrir. Donc, je ne pouvais pas passer effectivement à côté sans en parler.
Alors, pour la sœur jumelle, nous écoutons Abdul Mohamed.
أصابك عشق أم رميت بأسهمي فما هذه إلا سجية مغرمي ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي لبستها فوق جسم منعم ليل يا ليل ليل الليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا 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 ليل يا ليل بالكلام المغمغم وأحسد كاسات تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدث بالكلام المغمغم وأحسد كاسات تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم أصابك عشق أم رميت بأسهمي فما هذه إلا سجية مغرمي ألا فاسقني كاسات وغندي بذكر.
Voilà la volupté telle que la conçoit Abdel Mohamed, c'est ça le choix de notre invitée Barbara Duval, la femme des pianos, qui soigne les pianos, qui vend les pianos et qui transporte les pianos. Alors quand vous ne vous occupez pas de vos bébés pianos, qu'est-ce que vous faites? Plongée sous-marine, j'ai vu ça.
Oui.
C'est que vous plongez.
C'est ça. Mais c'est toujours le même et l'inévitable Daniel Parizeau.
Ah bon, ouais, mais il va tout.
C'est un des hommes de ma vie. Voilà, j'en ai plusieurs et lui, il en fait partie. Et c'est quelqu'un de très fort dans ma vie. Et donc, il faisait beaucoup de plongée. Il a fait de la plongée sous-marine. Et un jour, il m'a dit, mais viens Barbara, viens essayer. J'ai dit, même pas en rêve. Il m'a dit, ben, tu vas voir. Et donc, effectivement, il m'a pris sous son bras et pouf, on est parti plonger. Il m'a offert effectivement mon baptême de plongée.
Où ça?
À l'Argonaute, c'est juste à côté c'est à Ramonville.
Ah oui, oui, non, mais donc, vous n'êtes pas allé plonger bien loin.
Alors, au départ, non, puis ensuite, j'ai eu l'occasion de partir en Égypte deux fois, puisque mes niveaux, etc. Et la plongée sous-marine, quand vous êtes au fond, donc c'est une fosse de 15 mètres, et quand vous êtes au fond de la fosse de 15 mètres, vous mettez sur le dos, vous regardez la surface. Alors, moi, cette hauteur-là, ça peut paraître. Angoissant pour certains, et en fait d'avoir ce silence qui est juste, ce silence absolu.
La musique du piano.
C'est clair, ce silence absolu, mais même du brouhaha d'habitude, votre téléphone qui sonne, etc. Et là vraiment, vous vous ressentez sur vos sensations, vous-même, votre respiration, et vous regardez la surface qui est très très loin, et les bulles monter jusqu'en haut, et c'est juste, c'est une sensation qui est incroyable.
De la volupté. Alors, en Égypte, il n'y a pas besoin d'aller à 15 mètres. Vous plongez la tête dans l'eau et vous voyez des poissons de toutes les couleurs. C'est fascinant. Le Japon aussi, je crois, est quelque chose qui, pour vous, compte.
Oui, le Japon, la culture japonaise. Alors, moi, j'adore les mangas, les animés.
Les jardins.
Oui, aussi. En fait, c'est tout ce qui est... C'est marrant, c'est tout ce qui est zen.
Allez au Japon de temps en temps.
C'est un rêve.
Vous allez pas voir Yamaha au Japon?
Eh bien, c'est un de mes objectifs. Donc, si jamais ils m'entendent, ils le savent de toute façon. Effectivement, avoir un vous pouvez réaliser trois stages chez Yamaha, donc au Japon, à Mamatsu. Je suis sur la liste et j'attends juste mon billet d'avion et pouf, c'est parti.
À la découverte du Japon. Une œuvre d'art qui vous a marqué, un film de Miyazaki?
Oui. Alors Miyazaki, on va rester sur le côté Japon. Vous avez tout ce qui est donc la musique de Joe Hisaishi qui est incroyable, et Miyazaki c'est juste peut-être certainement l'homme le plus fabuleux de la planète. C'est quelqu'un qui allie nature, la force de l'homme, la force de la nature, le bien-être, la bienveillance, j'ai choisi le film de la Princesse Mononoké puisque il a un point de vue sur ce film qui est pas déterminé, c'est-à-dire que vous avez le personnage principal qui doit porter donc sur le monde un regard sans haine, et donc il va arriver il va vivre une situation et il va écouter en fait les deux, on va dire pendant une guerre il va écouter les deux camps et il va se rendre compte qu'en fait c'est ni bleu, enfin c'est ni blanc ni noir, il y a pas de vérité, c'est pas quelqu'un qui a raison, pas quelqu'un qui a tort. Et puis vous avez aussi un des personnages principaux qui est San, et San elle est indomptable, on lui dit que c'est une humaine, en fait. Elle se sent louve, donc il n'y a pas de case, il n'y a pas de juste.
Mais c'est le cinéma, peut-être un peu loin de la vraie vie, surtout aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit. Un moment particulier qui a marqué votre vie, une journée qui a été décisive, il y en a plein, vous êtes toute jeune, vous avez déjà marqué toute une liste, alors on ne va pas toutes les aborder, mais... Peut-être vous pourriez en choisir une, je ne sais pas. Moi, J'ai bien aimé le Philippe Cassard qui vous ouais. pianiste. Racontez-nous un peu cette rencontre.
Et ben Philippe Cassard, donc c'était pour la Saison Bleue. Ça a été un de mes premiers concerts. Et effectivement, à l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, souvent il passait là-bas. Et donc Philippe Cassard, on se connaissait pas encore. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble. Et donc moi j'accorde, etc. Je dois me déplacer. Je suis pas là pour les répétitions. Lui répète. Et au moment en fait de sortir de la salle, je le croise, je le salue et je lui dis que je suis l'accordeuse. Il me fait bah super et donc je vous ai laissé quelque chose sur le piano. Et il faut savoir que, on va dire, sa particularité à lui, c'est de laisser des petits mots pour les techniciens donc, qui sont absents, qui ne sont pas là et qui reviennent plus tard, justement pour pouvoir travailler sur le piano et le modifier un petit peu. Et donc, j'ai encore le mot de Philippe Cassard qui me disait que le mi bémol était trop brillant ou trop... Je ne sais plus quel terme
trop
exact.
Trop citronné.
Ça arrive alors, de dire ça, c'est
que,
vrai.
Qu'est-ce que c'est qu'un mi trop citronné?
Alors, moi, je vais l'interpréter comme quelque chose d'un peu trop clair par rapport au reste et qui, effectivement, va se dénoter. Une note qui va se dénoter par rapport aux autres et donc on va essayer de la travailler un peu pour qu'elle retourne un peu dans l'ambiance générale.
Et puis vous avez anticipé parce que vous m'avez parlé d'une rencontre qui aura lieu demain, si j'ai
oui.
bien compris, avec Brad Medlow, que je ne connais pas, mais vous allez nous dire qui c'est. Et vous anticipez en nous disant mais ça va être une superbe
oui.
rencontre.
Bah, Brad Medlow, c'est quand même un des musiciens, enfin c'est un pianiste, c'est un compositeur, c'est une personne qui est... C'est quelqu'un de mythique. Et donc, demain, je vais, pour la petite pub, à Tarbes, puisque celui-là passe sur la scène nationale de Tarbes en récital, enfin seul. Et donc, je vais à la rencontre de ce mythe qui a inspiré notre génération. Et par exemple, je parlais avec Nathanaël Gouin, pianiste lui aussi, qui disait que c'était... Et puis Marc-Olivier Point aussi, là où on s'est rencontrés, qui me disait que c'était vraiment leur idole un peu, donc moi c'est aussi mon idole, je sais ce qu'il a déjà créé, ce qu'il a fait, comment il joue. Je l'ai croisé, enfin je l'ai vu de très loin à Jazz in Marciac là l'année qui vient de passer. C'était pas moi qui accordais cette fois-là, mais j'ai pu assister au concert, mais là il va être seul et puis ben moi je vais être toute seule comme d'habitude avec mon piano et puis on va discuter et puis on va travailler ensemble. Ça va être
donc,
là je suis là ça va, mais en vrai dans mon petit corps c'est n'importe quoi là, j'ai hâte demain.
Un grand moment en devenir,
oui.
Donc on va croiser les doigts pour que cette rencontre soit, et pour l'un et pour l'autre, très fructueuse. Alors la personne qui vous a inspiré, qui a été un modèle, ben on l'a compris, vous l'avez
ouais.
cité tout au long de cette émission, c'est Daniel Parizeau,
oui.
hein, qui est votre deuxième papa, si j'ai bien compris.
C'est exactement ça.
Voilà, donc Daniel Parizeau qui est à la retraite aujourd'hui,
oui.
mais quand même... Il doit un peu toujours avoir un œil mmh. sur son bébé.
Ouais, bah il veille au grain. Son bébé, c'est l'entreprise et puis voilà. Moi, aujourd'hui, on est autant. Enfin, ça reste toujours mon sensei. C'est comme ça que je l'appelle et en même temps, c'est mon ami et c'est
oui,
quelqu'un d'ailleurs.
Un peu
c'est
dans le Japon là, hein, le sensei.
Oui,
ouais,
parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour cette personne-là et pour cet humain. Et il m'a fait découvrir beaucoup de choses, la plongée, le travail. La rigueur aussi et il aimait bien dire aussi que voilà, avec un peu de travail et une petite pointe d'impertinence, on arrive à tout
il n'a pas tort. Bien, le temps avance très vite, Barbara Duval, on arrive à la dernière séquence de notre
oui.
émission, la séquence littéraire, puisqu'on parle toujours de livres, on finit on garde le meilleur pour la fin, c'est le
oui.
livre, mais il y a la musique aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez choisi Pierre Bottero,
oui.
qui a écrit la trilogie d'Elana. Alors, Pierre Bottero est un auteur qui vivait en Provence. Hein, en
mm-hmm.
60, il est né en 64 à Barcelonnette. Et malheureusement, il est décédé aujourd'hui dans un accident de moto, je pense.
Oui, c'est ça. C'est mm. Je pense que c'est le premier homme pour qui j'ai pleuré dans ma vie. Quand ma maman, elle nous a, donc avec ma sœur, elle nous a demandé de nous asseoir, elle nous a dit bon ben voilà, celui qui vous est tant rêvé et partir vraiment dans des nouveaux mondes, en fait il n'existe plus et il écrira plus de nouveaux livres et de nouvelles de nouveaux mondes extraordinaires et je pense que c'est la première personne pour qui vraiment j'ai été bouleversée.
Alors c'est un homme qui écrivait plutôt dans le style fantasy,
oui.
c'est ça, fantasy fantastique. Il a été, comme beaucoup d'entre nous, très marqué par l'œuvre de Tolkien.
Oui.
Et il a créé à son tour un certain nombre de mondes. Il a été pendant 20 ans instituteur, Pierre Bottero. Mm-hmm. Et après, eh ben, il s'est consacré entièrement à créer des univers différents, des dragons, de la magie, oui. C'est ça. Hein.
C'est ça. Et puis, c'est aussi beaucoup de... Enfin, là, le personnage principal qui est Elana, elle va être victime d'une... voilà, enfin, ses parents vont mourir, etc. Et elle va être... elle va se retrouver seule, en fait, un peu face au monde. Et elle va apprendre à... en fait, elle va chercher, si je peux dire ça comme ça, où est sa place, même si je pense qu'on n'en a pas qu'une dans la vie. Mais elle va chercher à comment la bienveillance, comment vivre pleinement, avec en pleine conscience. Elle va choisir les gens avec qui elle va voyager, avec qui elle va vivre, qu'elle va aimer. Le pacte qu'elle va faire dans sa vie, etc. Et j'aime bien parce que quand j'en parle comme ça de vive voix, j'ai l'impression qu'on a fait un pacte aussi nous avec notre vie de piano et j'aime bien cette comparaison.
Pierre Bottero continuera à vivre à travers ses œuvres et puis je vous en ferai découvrir une aux excellentes éditions Le Diable Vauvert. Vous verrez qu'il y a aussi d'autres mondes et d'autres gens qui continuent à créer des mondes et avoir une immense créativité.
Avec plaisir.
Alors moi, je vais vous parler d'autre chose. Là, il est bien en vie parce que j'étais avec lui il y a deux jours. C'est Serge Joncourt qui a eu le prix Femina 2021. Il a eu aussi d'autres prix parce qu'il a beaucoup écrit. Pour son Nature humaine, paru en 2021 chez Flammarion. Alors, ça se passe dans le département du Lot et on remonte dans le temps là, un agriculteur, Alexandre Fabrier, qui va peut-être reprendre la ferme familiale des Bétranges. Alors là, il y a aussi une question de transition entre les parents, les vieux voisins. On remonte dans le temps, les trois sœurs de Fabrier qui vont quitter la campagne pour venir à la ville, notamment la sœur aînée Caroline qui va devenir étudiante à Toulouse. On retrouve des étudiants militants anti-nucléaires, on retrouve des activistes un peu plus virulents. Donc c'est un roman que certains ont qualifié de rural, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui va dépeindre les mutations des campagnes françaises à la fin du XXe siècle à travers le destin de cette famille d'agriculteurs du Lot. Et on y voit un monde allant de catastrophe en catastrophe. Alors, ceux qui m'écoutent régulièrement ne seront pas étonnés que ça me plaise. On y parle de la sécheresse de 76, on y parle de Tchernobyl, on y parle de cette grande tempête qu'il y a eu en décembre 99, etc., etc. Donc, un très bon roman. Je vous rappelle le titre, Nature humaine, par Serge Joncourt, chez Flammarion, prix Femina 2021. Alors, une annonce peut-être avant de nous quitter, c'est que on va faire la fête chez Parizo bientôt, parce que vous allez avoir un nouveau local, grand, clair, qui sera parfaitement adapté au développement de votre activité. C'est pour quand ? C'est pour le mois d'avril, c'est ça ?
Alors là, officiellement, on remonte nos manches et la semaine prochaine, on déménage.
Et déménager les pianos aussi, maintenant, on sait que c'est quand même assez facile.
Alors là, il n'y aura pas que ça, mais effectivement, on va déménager tous nos pianos. On double en fait la surface du magasin pour notre plus grand bonheur et on espère celui des personnes qui viendront à notre rencontre et à la rencontre de nos pianos. Et donc, on sera toujours à Ramonville, vraiment pas très loin, mais avec un endroit qui sera... On va le faire personnalisé à la Parizo et on espère qu'il sera extraordinaire. On en est même sûr.
Écoutez, on viendra vous visiter, on viendra boire avec vous pour arroser ce nouveau local et rencontrer Daniel Parizo que je
carrément,
ne connais pas mais dont le nom m'est connu depuis de nombreuses années. Merci Barbara Duval d'être venue à cette émission Cap Cap. À la technique, l'on avait comme toujours Tiffaine Lemel que je remercie.
Et moi aussi, merci.
Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec tous les autres podcasts sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.